Ça vise à renforcer le pouvoir et donner plus de pouvoir et un pouvoir plus fort et plus long, plus prolongé, si je peux dire. Et déjà, il est au pouvoir depuis pas mal de temps. Il l'a hérité de son père et il va continuer à davantage renforcer son pouvoir, ce qui n'est pas non plus de plus souhaitable pour le pays. Mais je pense qu'il arrive à le faire dans un contexte où l'opposition est faible et divisée. Puis il y a le contexte international qui fait qu'on est focalisé sur les conflits du Moyen-Orient. Donc du coup, j'ai le sentiment en fait qu'en Occident, dans la communauté internationale, pousser l'agenda démocratique de ces pays-là, ça devient moins prioritaire. Et quelque part, ça profite un peu à ces pays, pas seulement l'Azerbaïdjan, même les autres pays. Tous les pays de l'ex-URSS en profitent pour renforcer leur pouvoir, sachant que l'opposition est divisée et que les Américains ou les Européens ne vont pas trop leur mettre des pressions pour se démocratiser.
Alors justement, vous le dites, l'actuel président a hérité un petit peu de son père, qui était lui-même président. Quelle a été l'évolution de l'Azerbaïdjan depuis son indépendance ?
L'Azerbaïdjan, comme les autres pays de l'ex-URSS, sont des fabrications soviétiques. Ce sont des républiques qui ont été forgées par la politique de Staline des nationalités. Et en 1980, quand ces pays deviennent indépendants, d'abord, il y a beaucoup de défis qui les attendent. Et le premier, c'est d'assurer la stabilité, le développement économique, la promotion de ces pays sur la scène internationale. Donc, d'une manière assez large, assez générale, je pense que ces pays ont réussi à se maintenir. Il y a très peu de pays qui ont sombré dans la guerre civile. Et pour ce qui est de l'Azerbaïdjan, après quelques années d'instabilité, de coups d'État liés en partie aussi à la guerre du Karabakh, le pays a réussi à se stabiliser grâce au père de l'actuel président. Et depuis, le pays est stable, développe. Il y a une croissance économique impressionnante grâce au pétrole parce qu'il a beaucoup de richesses énergétique, mais à quel prix? Et ça, c'est le revers de la médaille. Le prix à payer, c'est qu'en fait, c'est un pays qui s'est autoritarisé, avec un régime assez fort, une répression des médias. Alors là aussi, il faut nuancer, il n'est pas aussi féroce que l'a été, par exemple, en Ouzbékistan ou en Turkménistan, mais ça reste quand même un régime assez fort, assez autoritaire.
Et quelle est la position de la population face à ce pouvoir autoritaire?
Si demain, il y a des élections démocratiques, vraiment, il joue le jeu, je pense qu'il aurait plus de 50% de la population qui serait d'accord avec lui. Mais là, à l'heure actuelle, on a affaire à des régimes qui veulent montrer qu'il faut l'unanimité. Donc, à chaque fois qu'il y a des élections, les élections sont truquées et puis on arrive à obtenir un score à 80-95% de voix. Bon, évidemment, c'est pas très crédible. Mais je pense que néanmoins, même s'il n'y a pas une adhésion aussi forte du peuple au projet présidentiel, il y a quand même un soutien assez important, en tout cas plus de la moitié de la population. On a le sentiment en fait que la population, dans une large mesure, elle a accepté ce pouvoir autoritaire parce qu'en échange, elle a une certaine stabilité qui la rassure parce que pendant les premières années de l'indépendance, le pays était très souvent fortement secoué par des tentatives de coup d'État et par la guerre du Karabakh.
Est-ce qu'aujourd'hui, cette stabilité est menacée? Alors je pense autant sur le plan économique par la crise pétrolière qui fait baisser le niveau des finances que sur le plan diplomatique avec ce conflit avec l'Arménie.
Alors au niveau économique, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir parce que la crise liée à la chute des prix des carburants, des hydrocarbures, fait qu'en fait ça touche tous les pays qui sont producteurs, et l'Azerbaïdjan en fait partie. Mais je pense qu'il peut encore tenir pendant un certain temps parce qu'ils ont beaucoup de réserves, ils ont d'autres solutions alternatives. Il avait quand même des investissements à l'étranger qui ont pu le sauver en quelque sorte. Et après, il y a aussi, des pays qui peuvent négocier des prêts avec les FMI. Il y a la Russie qui peut les aider éventuellement. Ils négocient avec la Turquie, avec d'autres pays. C'est-à-dire qu'ils peuvent, avec un certain endettement, vivre encore pendant plusieurs années, en fait. Mais ils ne peuvent plus avoir les largesses qu'ils avaient avant. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir une politique de grandes dépenses, de travaux, d'organisation de jeux prestigieux pour faire la promotion du pays. Mais ce sont des choses qu'ils ne peuvent plus vraiment faire, en fait. Or, tout ça, à la rigueur, c'était secondaire. C'était, pour eux, un moyen de donner une image positive du pays. Mais s'il faut réduire ces dépenses-là, ils peuvent le faire. Pour le peuple, ça ne change pas grand-chose, en fait. Avant la crise, déjà, ce n'est pas une population qui bénéficiait considérablement de ces prix du pétrole, en fait. Donc, il y avait une mauvaise répartition. Il y a toujours une mauvaise répartition de ces richesses. Par contre, là où ça touche le gouvernement, c'est dans sa politique de dépenses ostentatoires qu'il ne veut plus faire, comme avant.
Et maintenant, si on passe sur le volet plus international, on a beaucoup parlé de ce conflit dans le Haut-Karabakh avec l'Arménie. Qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce que ça révèle, finalement?
Eh bien, le conflit du Karabakh, je pense que ça fait partie de ces conflits qu'on appelle gelés, même s'ils ne sont pas vraiment gelés, parce que de temps en temps, il y a quand même des soubresauts, il y a quand même des affrontements assez violents, comme on a pu le voir il y a quelques mois. Il y avait une espèce de guerre qui a duré 3-4 jours, et là, c'est assez violent. Mais je pense qu'il y a, pour l'instant, il n'y a pas de solution diplomatique, parce que les puissances régionales ne sont pas en mesure de se mettre d'accord, parce que c'est un règlement qui dépasse largement les capacités et les moyens de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et du Karabakh de le régler. Il faut aussi qu'il y ait une vraie implication des puissances régionales. Et pour l'instant, la principale toutes ses puissances, c'est la Russie, et on n'a pas l'impression qu'elle soit particulièrement impatiente de régler ce problème-là, parce que ça lui permet aussi de se maintenir, d'avoir une certaine mainmise sur la région, en fait.
Et justement, en parlant de la Russie, quelles sont les relations de l'Azerbaïdjan avec ses grands voisins? Alors, on pense à la Russie, bien sûr, mais il y a aussi pas très loin la Turquie, il y a l'Iran.
Les relations de l'Azerbaïdjan avec l'ancienne puissance tutélaire, avec la Russie, je pense qu'elles sont assez équilibrées, elles sont bonnes, elles ne sont pas tendues, et l'Azerbaïdjan tient beaucoup à son indépendance. Chaque fois qu'il y a la Russie essaie de l'inciter à adhérer à des organismes internationaux de coopération économique ou des projets d'intégration, comme notamment l'Union économique eurasienne, là on voit que l'Azerbaïdjan est tout à fait réticent, il veut maintenir son indépendance. Pour ce qui est de ses relations avec les autres pays de la région, la Turquie c'est un partenaire fondamental parce que pour des raisons culturelles, linguistiques, économiques, théologiques, stratégiques, et donc les pays s'entendent très bien. Avec l'Iran, c'est beaucoup plus compliqué. L'Iran, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est aussi l'autre parent de l'Azerbaïdjan. C'est un pays qui est très proche par la culture, aussi un peu par la langue, enfin, surtout par la religion. Mais néanmoins, les relations sont tendues parce que autrefois, les deux pays, on n'en faisait que un, en fait. L'Azerbaïdjan considère un peu que l'Iran ne respecte pas son identité, son indépendance, sa façon de se définir. Et pour ce qui est de l'Iran, pour eux aussi, il y a une espèce de complexe de supériorité dans le sens où ils disent autrefois l'Azerbaïdjan était une province iranienne. Mais néanmoins, les relations sont quand même assez équilibrées. Il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de tension, mais il n'y a pas non plus des relations ultra approfondies entre les deux pays.